Alors, Luc 14, 1. Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi, aux pharisiens, « Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux invités, parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va par les chemins et le long des haies, contraint les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Prions. Seigneur, merci pour ce texte. Merci pour ce temps ensemble ce matin. Ce moment où ce texte est le plus important et le meilleur texte qui soit pour nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Ouvre nos cœurs à être prêts à entendre et à comprendre ce que tu as à nous dire ce matin par ce texte. Seigneur, parle-nous, que ce ne soit pas simplement mes paroles, Seigneur, mais que tu puisses vraiment te servir de ce texte pour nous toucher tous ensemble ici, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Jésus était entré un jour de sabbat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression avec moi que Jésus ne guérit que les jours de sabbat? C'est un peu l'impression que ça donne. Hein. Je crois qu'on en a vu un il y a 2 semaines. Et dans les évangiles, en fait, il y a 7 fois distinctes qui sont relatées où Jésus guérit un jour de sabbat. Et alors on sait qu'il guérissait aussi beaucoup de monde d'autres jours. C'était pas le seul moment. Mais c'était quelque chose qui était une bonne illustration, une bonne image visiblement, et que Dieu a voulu garder et mettre dans la parole pour qu'on réfléchisse sur ce qui se passe et ce qui arrive avec les pharisiens. Donc il entre chez un des chefs des pharisiens. On se dit qu'il a été invité. Hein, ils l'ont invité à manger a priori. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont dit, tiens, ce Jésus-là, on aime bien, j'aimerais bien l'avoir à la maison? C'est plutôt, sachant les interactions qu'on a vues les semaines précédentes, on se dit, on va essayer de le piéger chez moi à la maison, je vais inviter quelqu'un de malade, je vais inviter Jésus, je vais mettre le malade devant lui, il va le guérir et là je l'épinglerai. Je vois pas trop... Qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme autre motivation. Normalement, dans cette période-là, quelqu'un qui était malade comme cette personne aurait été considéré comme mauvaise pécheresse, un peu contaminée, et on ne l'aurait pas invité à un bon repas. Donc ça, à moins peut-être que ça a été de la famille, mais a priori, ça sort un peu de l'ordinaire qu'une personne comme ça ait été présente avec Jésus chez un des chefs. Donc on se dit que leur motivation était mauvaise, ils voulaient piéger Jésus. Si j'avais vécu à l'époque, bon, il y aurait beaucoup de choses qui auraient été différentes, mais quand on voit, chaque fois que quelqu'un invite Jésus à manger, il fallait être sûr d'avoir aucune mauvaise intention ou aucun mauvaise idée, parce que sinon, Jésus se faisait pas prier pour rentrer dans le tas. C'était quelqu'un de dangereux à inviter à la maison, quoi. C'est pas le bon invité de maison qui, quand vous avez plein de gens à la maison, est super sympa, tout le monde l'adore, il fait des blagues, il raconte des histoires. Non, non, Jésus, c'était celui, les gens disaient, waouh, machin, et puis lui, il leur disait, non, mais t'es un menteur, toi, tu vas pas aller au ciel. Enfin, c'est vraiment, il tape, il s'embêtait pas. Mais il le fait par amour. Il aurait pu ne pas aller quand ils l'ont invité, il aurait pu s'en moquer. Mais il continue quand même d'interagir avec les pharisiens et il continue de dialoguer avec eux. Et même dans ses réponses, qui sont sèches, qui sont dures, lui, il le fait parce qu'il se dit, il y a peut-être encore une chance que ces gens se repentent, il y a peut-être encore un espoir. Si je dis rien, alors il se passera rien, ça c'est sûr, mais si je dis quelque chose, si je les reprends, il y a peut-être un espoir qu'il change. Dans un des commentaires que je lisais, il y avait une petite phrase qui m'a vraiment marqué et où il disait « Nous ne changerons jamais nos ennemis en amis si nous les ignorons. » On ne peut pas faire de quelqu'un qui est un ennemi, un ami, si on n'interagit pas avec la personne. Je le partage, voilà. Ça m'a parlé. Jésus est là au milieu et j'ai cette image de personne un peu Jésus assis sur une petite table et des gars debout autour de lui avec des couteaux prêts à le... On a l'impression qu'il l'avait invité vraiment avec cette intention de le juger, de l'attraper. Ils étaient hargneux et qui lui tournent autour, qui sont tendus, qui sont... On va le voir après un petit peu avec comment Jésus leur parle des places. Mais Jésus, lui, on en a une impression de tranquillité. J'ai l'impression, moi, dans ma tête, je vois un peu les pharisiens qui tournent autour, qui sont tellement énervés, qui ont tellement envie de le reprendre, qu'ils peuvent rien manger, rien boire. Et puis Jésus au milieu qui prend un petit truc à manger, qui se boit un petit truc avant de répondre, qui prend son temps, qui est tranquille. Il est pas inquiet, il est pas en difficulté. Et Jésus veut que nous ayons ce genre de tranquillité dans la vie, que nous soyons comme lui, que nous n'ayons pas peur des gens autour de nous. On a vu dans les textes passés qu'il nous dit plutôt de craindre celui qui peut vraiment nous envoyer en enfer. Et il veut nous donner cette paix. Pour ça, on doit venir à lui, on doit l'aimer, on doit l'écouter et on doit lui obéir. Et par rapport à ces pharisiens qui l'observent lui, pour nous aussi... La Bible, dans 2 Corinthiens 3, nous dit que nous sommes une lettre écrite par Jésus et que quand les gens savent que nous sommes chrétiens, quand nous témoignons de Jésus, après ils nous observent et ils voient nos vies. Et Jésus veut que nos vies soient un bon témoignage, soient quelque chose que les gens regardent et se disent « Tiens, il y a quelque chose de vrai là ». Encore une petite phrase que j'ai vue dans un des commentaires, qui m'a aussi parlé, qui dit « Nous sommes la seule Bible à laquelle certaines personnes ne seront jamais confrontées. » Je vous le laisse encore comme ça. Hydropique, ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, je sais pas. J'ai pas eu le courage, je me suis dit « Je vais pas aller sur Google regarder des images là sur les trucs de médecins. » En général, c'est une mauvaise idée avec les maladies. Je me suis dit, je vais aller regarder dans un dictionnaire. Et évidemment, dans les dictionnaires, il y a toujours des définitions géniales, comme quelqu'un d'hypotropique, c'est quelqu'un qui est atteint d'hydropisie. C'est bien les dictionnaires, hein, ça sert toujours. Et ensuite, l'hydropisie, c'est l'accumulation de sérosité dans une cavité organique ou dans le tissu cellulaire. Se dit couramment de l'œdème généralisé. Donc, j'ai cherché un petit peu plus loin parce que j'avais toujours pas compris. Et en gros, c'est que c'est des personnes qui ont des problèmes d'organes internes qui s'arrêtent de marcher et le corps sécrète des liquides et donc ils ont le corps tout gonflé. Et en général, c'est l'idée qu'il y a des organes qui s'arrêtent de marcher, donc ils sont à la fin. En général, pour ce cas-là, c'est très grave et ça va pas aller beaucoup plus loin pour la personne. Et c'est quelque chose de très visible. C'est quelque chose où, visiblement, on voit la personne et on sait qu'elle est malade. Et Jésus le guérit. C'est un miracle. Dans certaines guérisons, on se dit, bon, c'était pas visible. Là, c'est encore un truc un peu comme au cinéma, quoi. C'était visible. Donc, la personne était toute gonflée et Jésus l'a guérie. Et on se dit, il y a dû avoir un truc physique qui s'est passé. Je sais pas, j'aurais bien aimé être là pour voir. Ou on demandera, comme j'ai déjà dit, les DVD au ciel pour voir l'effet immédiat sur la personne, comme dans un film où la personne il y a un truc incroyable. Et de se dire, waouh, quoi. Et puis de se dire face à ça, encore là une fois, la réaction des pharisiens. Mais il guérit cet homme tellement simplement, tellement tranquillement, c'est fou. Et si on revient au verset 3, Jésus, il leur demande, avant de faire ça, il leur dit, est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat? Encore une fois, il voyait tout venir, il voit le malade, il sait que bon, ben, ils l'ont invité parce que ils voulaient le condamner, et il prend les devants. Et il leur dit une question très simple, est-ce qu'on a le droit de guérir le jour du sabbat? Et comme souvent, les pharisiens sont coincés, parce que c'est quoi leurs options? Leurs options, c'est oui ou non. Donc, non, on n'a pas le droit de guérir le jour du sabbat. Tout le monde va dire qu'ils n'ont pas d'amour, que c'est des méchants, etc. S'ils disent oui, tous leurs contemporains, leurs collègues pharisiens vont dire « Ah, mais vous êtes de mèche en fait avec Jésus, etc. » Donc ils sont coincés. Ils sont coincés et ils répondent rien. Moi, je trouve marrant, alors a priori, ce qu'ils avaient envie de répondre et ce qu'on a vu dans le passage, c'était il y a 2 semaines, avec le chef de la synagogue qui reprend Jésus dans Luc 13 en disant non, il faut pas venir se faire guérir le jour du sabbat, c'est les autres jours, mais pas le jour du sabbat. Et on avait parlé de l'idée que c'était pas comme si le chef de la synagogue à ce moment-là pouvait dire bon bah reviens lundi et je te guéris lundi. Le chef de la synagogue ne pouvait le guérir aucun jour, ça posait pas, c'était pas. Et en y réfléchissant un petit peu plus, c'est pour vous donner un petit peu une image de la question et presque de l'absurdité de la situation. Comment moi je peux décider si guérir quelqu'un c'est du travail, si je sais même, j'ai aucune idée de ce que c'est? Est-ce que vous savez guérir quelqu'un, vous? Est-ce que c'est du travail de guérir quelqu'un? On ne sait pas. Enfin, je veux dire, miraculeusement, comme le fait Jésus, c'est presque comme si on disait, est-ce qu'on a le droit, le jour du sabbat, de se télétransporter? Est-ce que le jour du sabbat, on a le droit de léviter? C'est des règles pour des situations impossibles. Enfin, je veux dire, c'est... enfin, c'est même pas... Est-ce que vous posez la question, est-ce que j'ai le droit de léviter le jour du sabbat? Non. Parce que, enfin, c'est au-delà de vos capacités, c'est au-delà de vos... Alors, il y a guérir et guérir. Il y a des guérisons miraculeuses qu'on peut prier et il peut avoir des choses qui se passent. C'est par la puissance de Dieu. Mais pour Jésus, c'était quelque chose... Je me dis, déjà d'une, pour Jésus, j'ai jamais l'impression que ça a été du travail. Vous avez... Enfin... C'est fou, quoi. Les pharisiens, c'était quelque chose de complètement théorique et ils avaient inventé une règle, quoi. Au cas où, Si jamais il y a quelqu'un dans la salle qui sait léviter, on va l'interdire quand même. C'est marrant, quoi. Ça me marque. Et Jésus les reprend encore une fois sur leur cœur dur. Ils étaient prêts à sauver un animal ou un de leurs enfants le jour du sabbat, si leur fils ou leur bœuf tombe dans un puits. C'était un problème à l'époque parce qu'il y avait des puits pour aller chercher l'eau et donc ça pouvait arriver que les gens tombent dedans, ou les bêtes, etc. Donc ils avaient le droit de sauver une vache ou quelque chose si ça tombait, mais par contre guérir quelqu'un, ils avaient décidé que non, c'était du travail et donc ils n'avaient pas le droit, quoi. Et Jésus, il leur reproche en fait de simplement la chose, l'essence là, c'est qu'ils ont pris des traditions, des commandements d'hommes, et ils ont dit c'est au niveau de la loi de Dieu. Dans Marc 7, verset 8, il est dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Ils avaient pris les 10 commandements. Dans les 10 commandements, est-ce qu'ils parlent du fait que tu n'as pas le droit de guérir le jour du sabbat? Enfin, je veux dire, c'est... Alors, il y avait des choses dans la loi après, dans le Lévitique, etc. Mais ils n'avaient pas compris l'essence de la loi. Et ils avaient réussi à prendre ça et à le tordre tellement que c'était interdit d'aider les gens, quoi. Nous, hommes, on arrive à prendre la simplicité de la parole de Dieu, de prendre les 10 commandements, de prendre les choses de Dieu. Et avec nos processus intellectuels, on arrive à les tordre tellement qu'ils sont retournés. Ils sont complètement à l'envers. Faisons attention de ne pas faire cela. C'est marrant parce que, alors on voit l'interaction et on voit tout, et comme je vous ai dit tout à l'heure, les pharisiens, ils ont une mauvaise intention, ils sont énervés envers Jésus, voire ils ont envie de le tuer, etc. Mais Jésus, on a quand même l'impression qu'il fait appel à quelque chose de bon en eux. Il se dit, mais vous avez quand même un côté bon, quoi. Vous avez un cœur. Si votre fils ou un bœuf tombe dans un puits, vous allez le guérir. Alors pourquoi vous pouvez pas le guérir lui? C'est comme ça qu'il leur parle. Il leur parle pas en les condamnant. Il leur dit, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, réfléchissez. Moi, je pense que Jésus, dans ces interactions-là, il a dû avoir tellement d'amour qu'on lit ces passages sans on passe et on dit bon ben il est condamné, il a défoncé les pharisiens, il les a craqué, on aime bien cette manière de faire. Mais Jésus, je pense qu'il avait tellement d'amour. Alors il y avait des moments où il était énervé, il était en colère à cause de leur manque d'amour et de leur manque d'amour répété. Mais je pense que dans des situations comme ça, il veut les sauver. Jésus, Dieu, Jésus, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, c'était pour sauver tous ces gens. Il se dit, je vais aller mourir à la croix pour toi. Réfléchis, vas-y. Il veut pas simplement leur faire honte, hein. Il veut les faire réagir. Il veut essayer de les ramener à la raison. Il veut sauver. Est-ce qu'on a des règles ou des choses dans notre tête comme ça, des traditions qui nous font réagir comme ça, qui nous font juger, qui nous font... Si vous allez dans une église qui se réunit le vendredi soir ou le samedi soir, est-ce que implicitement je me dis, bon ben nous on est mieux parce qu'on se réunit le dimanche matin? Est-ce qu'on a des règles? Examinez vos cœurs, examinons nos cœurs pour essayer d'exposer ce genre de comportement, ce genre de jugement, ce genre de choses où on prend des choses qui sont nos traditions. Faut qu'on chante 5-6 chants, faut qu'on ait un petit temps de prière, faut qu'on fasse ça, après il faut qu'on ait le café. Si un jour vous arrivez et on dit on fait le café avant, on fait la prédication et ensuite on fait la louange à la fin, est-ce que ça va aller? Ou il y en a qui vont faire des syncopes? Parce que ça arrive, il y a des églises où si vous changez l'ordre... Et ça peut nous arriver aussi d'avoir ce genre de jugement, ce genre de... Il y a d'autres églises qui ont d'autres manières de procéder pendant leur culte, et moi, j'ai la honte de dire qu'il y a des moments où je les juge et je dis « on est mieux » ou « je suis mieux ». Et c'est un péché. Et en tant que chrétien, on a souvent un danger de devenir comme des pharisiens. Donc, examinons nos cœurs. Verset 7, il adressa ensuite une parabole aux invités, parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Jésus les regarde faire, il les observe, et c'est maintenant lui qui va faire des commentaires sur comment ils se comportent. Parfois, on se dit que Jésus, ou Dieu, a une vision un peu... Dans ma tête, des fois, je me dis que Dieu, les petites choses, les petites habitudes, les petits éléments de la vie, les petites choses qui se passent au jour le jour, au travail, dans ma vie, dans mes interactions avec les gens, que Dieu, il y a des choses qui lui échappent. Mais Jésus, lui, dans ce qu'on voit, était quelqu'un qui connaît parfaitement les cœurs, etc. Donc, il voit... ce que nous on peut pas voir, mais il avait cette observation de la vie de tous les jours, de la culture, des habitudes, des raisons, de tout ce qu'il faisait. Quand il interagit avec les pharisiens, il connaît parfaitement tout. Il a été charpentier, menuisier pendant la majeure partie de sa vie où il passait son temps à faire les petites choses que vous et moi faisons, entre guillemets, de vivre au jour le jour en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et il a une Il voit, et là il va regarder, il les regarde et il voit des choses à propos desquelles il veut parler. Si on laisse Jésus regarder dans nos vies et nous examiner et qu'on l'écoute, il a des choses pour chacun de nous à nous dire et des choses sur lesquelles il veut nous reprendre, nous conseiller, nous diriger. Et donc qu'est-ce qu'il observe chez les pharisiens ? Il choisissait les meilleures places. À cette époque, le rang social était très lié à la place qu'on occupait pendant le repas. Il y avait l'hôte, et si tu étais assis juste à côté de l'hôte, c'est que tu étais le plus important dans la salle. Et si tu étais deuxième, c'est que tu étais le numéro deux, etc. Et si tu étais au fond de la salle, tu n'étais pas important. Et si tu étais devant, souvent les autres se disaient « Bon, lui c'est quelqu'un d'important, si je fais un repas chez moi la semaine prochaine, je vais l'inviter aussi ». Donc ça perpétuait un peu le... Donc l'image là, c'est que Jésus les regarde et c'est comme dans un avion à l'atterrissage. Vous savez de quoi je parle ? Quand on atterrit, que les stewards disent tous « Non, il faut rester assis » et que tout le monde se lève et veut chercher son truc et veut être le premier à sortir de l'avion. Vous connaissez ce moment-là ? Ça vous parle, hein ? C'est bon ? C'est ce qu'ils étaient en train de faire pour les places à table. Ils étaient là, dans la place, alors c'est comme dans l'avion. On peut pas être ouvertement égoïste et dire à tout le monde, je suis en retard, donc asseyez-vous tous, c'est moi le plus important, mais c'est ce que tout le monde pense. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils se disaient tous, c'est moi le plus important, je veux être à la meilleure place, mais il faut pas que je le montre comme ça. On n'a jamais le droit de dire égoïstement et ouvertement, c'est moi l'homme le plus important dans la salle, laissez-moi la première place. Pourtant, on le pense. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et Jésus leur raconte une petite histoire. Il leur dit, si vous allez à un banquet et que vous vous asseyez à la première place, et qu'ensuite il vient quelqu'un que l'autre considère comme plus important, tu vas avoir honte parce qu'il va te dire non, t'es pas le plus important en fait. Tu vas rougir et tu vas être obligé de te décaler. Donc il lui dit c'est mieux de pas se faire son autopromotion. Et on sait, Jésus les avait déjà repris dans Luc 11, verset 43, il avait dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. » Ils aimaient ça. Dans Psaume 75, verset 5, il est écrit « Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux méchants, n'élevez pas le front. N'élevez pas si haut votre front, ne parlez pas ainsi, le cou raide. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, car Dieu est celui qui juge. » Il abaisse l'un et il élève l'autre. Jésus leur dit, il vaut mieux être humble et pas trop se montrer à l'avant et espérer que la personne, l'autre, vous élève, vous dise non, c'est pas ta place, tu es quand même plus considéré. Et c'est un principe simple dans le royaume de Dieu et qui revient de multiples fois dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi, cette idée que c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse, c'est Dieu qui décide. Et alors il y a l'effet pervers inverse où on se dit je vais m'asseoir à la toute dernière place en espérant que je vais être élevé. Et nous souvent notre interaction c'est comment est-ce que je peux être élevé? Comment est-ce que je peux m'occuper de moi? Et la Bible, l'idée c'est plutôt de pas nous soucier de nous et de nous soucier des autres. Comment est-ce qu'on peut élever les autres? Comment est-ce qu'on pourra encourager les autres? Comment est-ce qu'on peut parler en bien des autres? Et pour cette idée de pas s'élever soi-même et de pas avoir cette fierté, Jésus est bien la meilleure personne pour nous l'enseigner, parce que Jésus l'a montré par sa vie le mieux. Si on regarde dans Philippiens 2, si vous voulez vous y tourner avec moi, on va lire ensemble un petit bout du chapitre 2. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Paul il dit, estimez les autres meilleurs que vous-même et faites-le parce que c'est l'exemple que Jésus nous a donné. Il était Dieu et il a accepté d'être pire que nous, en quelque sorte, d'être fait péché par Dieu pour nous, d'être condamné, d'être considéré comme un moins que rien. C'est l'exemple de Jésus. On peut aussi se tourner dans Luc 18, un autre petit passage sur cette idée, cette chose qui revient dans le royaume de Dieu, cette idée de ne pas s'élever soi-même. Et c'est une petite histoire qu'on connaît, et c'est Jésus qui la raconte à partir du verset 9, dans le chapitre 18. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce même principe qui revient. Dans 1 Pierre 5, à partir du verset 5, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui nous élève s'il en a envie. Notre souci ne doit pas être de savoir si on est élevé ou pas, si on est glorifié ou pas. Notre souci, ça doit être de savoir si on est réconcilié avec Dieu, si on est justifié avec Dieu et si Dieu est glorifié. Ça doit être ça notre souci, si Dieu est élevé. C'est quelque chose, même dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous aimez les gens qui viennent sans arrêt vous parler de leur accomplissement, qui viennent toujours, tous les jours, viennent vous parler de leur projet, qu'ils ont envie que vous adoriez, que vous en parliez à tous les autres, qui viennent sans arrêt comme ça pousser leur truc? Non. Vous les connaissez, ces gens? On les connaît, on en fait partie. Est-ce que ça vous arrive en soirée de dire, vous attendez juste que la personne arrête de parler pour que vous puissiez dire, moi j'ai été là, j'ai vu ça. C'est un peu ce que je vous disais, mais même dans les livres de management, ils disent c'est mieux. Enfin, vous allez sans doute avoir plus de succès dans votre travail et être plus apprécié si vous souciez des autres, si vous mettez en avant le travail des autres, si vous mettez en avant les réussites et les progrès des autres. Et encore une fois, c'est pas l'idée de dire je vais faire que ça pour que je sois moi ensuite que eux me, parce qu'on finit frustré. On finit avec il a pas parlé de moi, donc maintenant je vais me venger, etc. C'est le non, on doit avoir cet amour où on donne sans forcément s'attendre à recevoir en retour, mais c'est un principe qui marche même dans le monde, c'est de mettre en avant les autres et de rester humble. L'humilité, c'est pas l'auto-humiliation, ça veut pas dire parler mal de soi. Ça veut pas dire non, moi je suis mauvais, je suis pas bien, je suis. Encore une fois, c'est détourné. C'est on parle encore de soi. Le centre, c'est soi. L'humilité, c'est simplement savoir notre vraie valeur et être confronté à Dieu et à la Bible. Ça doit nous montrer et nous faire comprendre quelle est notre vraie valeur. De savoir qu'on est le fruit de nos circonstances, de notre société, de nos parents, que, alors oui, on travaille, on fait des efforts et on peut récolter les fruits de travail, mais il y a tellement de choses qui sont pas votre code génétique, comment vous êtes fait, les choses dans lesquelles vous êtes doué, est-ce que c'est de notre ressort? Pour une grande majorité des choses dans nos vies, on est complètement, c'est simplement Dieu qui a décidé de nous faire comme ça, mais l'humilité, c'est de savoir notre vraie valeur. Et quand on est confronté à Dieu, si vous vous confrontez à la Bible, si vous vous confrontez à la parole de Dieu, si vous regardez ça, que vous obéissez, qu'il y a ce miroir de voir qui on est, ça va vous donner, Dieu va vous montrer qui vous êtes et va vous donner cette estime, l'estime que nous avons pour nous-mêmes doit venir de l'image que Dieu nous donne. Notre valeur en tant que personne doit venir de comment Dieu nous voit et nous regarde. Notre identité, notre sentiment de valeur doit venir de Dieu. Et c'est très difficile parce qu'on est pécheur et parce qu'on est dans un monde qui ne vit pas avec ça. Mais Dieu veut que notre sentiment de valeur, notre sentiment d'importance, notre sentiment de je vaux quelque chose et je suis bon à quelque chose vienne du fait que c'est Dieu qui nous le dise. Et quand on voit comment Dieu nous considère, à ce moment-là, on peut être en paix. Et on a parlé aussi de l'idée de crainte, de réputation, contrairement au caractère, c'est encore cette idée de est-ce qu'on est plus inquiet parce que les gens pensent de nous ou est-ce qu'on est inquiet à propos de ce que Dieu pense de nous. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Donc peut-être, en application, si vous voulez quelque chose de pratique à faire, peut-être cette semaine ou dans le mois qui vient, essayez de mettre en avant les autres autour de vous, au travail, à l'église, à l'école. Parlez pas de vous, mettez-vous une petite note mentale quand vous commencez les phrases « moi, moi, moi », essayez de vous taire. Et essayer de dire, de voir ce que font les autres et de parler en bien de ça aux gens autour de vous. Verset 12. Une petite parenthèse pour ce que je viens de dire au niveau de l'application. Il y a une exception. Les parents n'ont pas le droit de parler de leurs enfants. Hein. Parce que c'est un peu s'envoyer des fleurs. Hein, c'est trop facile quand on est parent. Ah oui, mon fils, il fait des trucs. Regardez mon fils, il fait des choses incroyables. Je saurai ça peut-être bientôt avec Lindsay. Luc 14, verset 12. « Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Jésus, lui, il regarde en cours autour et il dit, bon, bah, je vois que t'as invité tous les gens importants, t'as invité les chefs de la société, tes amis riches, etc. Mais, tu l'as fait pour gagner quelque chose, pour gagner de la considération sociale, pour gagner en rang, pour gagner en réputation. Tu les invites parce qu'ils sont importants et leur importance reflète, tu espères avancer, gagner, être plus important, avoir plus d'argent, j'en sais rien. Et Jésus dit, ben, tu auras ta récompense là, quoi. Ils t'inviteront à manger chez eux et puis c'est tout. Et l'idée, c'est simplement que l'amour que Dieu veut que nous ayons, avec cette idée de considération par rapport à Dieu, avec cette idée de quel est notre caractère et quel est notre trésor, si on veut que ce soit qu'on ait un trésor par rapport à Dieu, si on veut récolter les fruits que Dieu nous promet au ciel, s'il veut qu'on ait ça, si c'est notre objectif, ce qu'on doit avoir, c'est un amour qui donne sans attendre en retour. Un amour qui nous coûte quelque chose et qui ne nous fait rien gagner ici. Quelque chose qu'on fait simplement parce qu'on aime et parce qu'on a envie de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'inviter ses amis, sa famille, certaines personnes, parce qu'ils risquent de nous réinviter, etc. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais c'est l'idée d'être exclusivement là. Et dans les églises, c'est un danger aussi qu'on s'invite tous, nous, entre nous, on se connaît, on est amis, on est bien, on se fait notre petit club social, on s'invite l'un, on s'invite l'autre, on se renvoie la balle comme ça, et puis on a l'impression d'être généreux, d'être bon, oh, je suis quelqu'un de super bon, et puis en fait, c'est juste que j'invite des gens que j'aime bien, et au final, c'est rien de différent de ce que fait le monde. Ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, mais c'est cette idée de Est-ce qu'on veut des trésors au ciel? Est-ce qu'on veut faire ce que Jésus nous dit? Et il nous dit, ayez de l'amour pour les gens qui ne peuvent pas vous repayer, pour les gens qui sont dans le besoin, pour les gens qui n'ont rien. C'est ça l'amour que Jésus veut qu'on ait. Ça peut être des gens pauvres matériellement. Mais je vous invite aussi à considérer qu'il y a des gens riches matériellement, qui sont pauvres spirituellement dans notre entourage et qui ont besoin d'une certaine manière, qu'on les bénisse avec la richesse de l'évangile. Souvent, on le voit pas comme ça, mais c'est l'idée que on peut donner de l'argent aux pauvres et on peut donner la bonne nouvelle de l'évangile qui est le jackpot spirituel et le donner aux gens qui sont pauvres spirituellement. C'est difficile hein, d'avoir cette motivation de pas se dire j'attends un petit même vis-à-vis de Dieu quoi. C'est un peu comme il y a un moment où je crois que c'est Pierre qui dit qu'est-ce qu'il en sera pour nous et Jésus dit ceux qui laissent ces choses en arrière on leur rendra au centuple et souvent quand on se dit on se concentre sur le centuple quoi. C'est un peu comme au travail quand on élève le travail des autres on finit frustré parce qu'on voit pas arriver le fruit. Alors on y arrive un petit peu et puis après on se dit mais Dieu j'ai donné 10 € et il y a cette frustration qui vient et on a pour aimer comme ça on a besoin de l'esprit de Dieu en nous et on a besoin que Jésus nous change de l'intérieur parce que c'est pas quelque chose qu'on peut produire nous-mêmes. Dans Daniel 12 2 et 3, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours la perpétuité. C'est la sagesse de vouloir ces choses, c'est la sagesse de vouloir ces choses, et Dieu dit que si on a la sagesse, si on est clairvoyant, qu'on voit la finalité et qu'on investit et qu'on dit on veut faire ces choses, on va briller comme des étoiles au ciel avec lui. Essayons peut-être cette semaine de donner quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas vous le rendre. Quelqu'un dans la rue, spirituellement, peut-être à partager l'évangile avec quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre, mais de le partager quand même avec amour. Faites quelque chose pour quelqu'un qui ne peut pas vous le rendre. Ça nous fait deux challenges cette semaine. Verset 15. Le grand repas. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Ma vision de ce moment-là, c'est Jésus a complètement cassé l'ambiance. Il y avait le repas, tout allait bien, les gens se disaient, on a un repas, ça va être cool, on va... Puis Jésus, il dit, ah, il est... Et tout le monde est un peu... Les gens se regardent, l'autre se dit, qu'est-ce qu'on... Il a dit quoi? Il a fait quoi? Vous avez déjà eu des moments comme ça, quand vous invitez les gens à la maison, il y a quelqu'un qui pose les plaies dans le plat, et vous essayez de... Bon, ben, on va passer au dessert, hein. C'est ce gars-là. Il dit, bon, ouf, c'est tendu là, je vais dire un truc. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il veut détendre, ils sont tous là, ils en peuvent plus, et ils font quelque chose. Et malheureusement, encore une fois, il donne une occasion à Jésus de le reprendre, parce qu'il était dans la fausse confiance qu'avaient les Juifs, que c'était eux le peuple choisi et qu'ils allaient au ciel et qu'ils allaient dans l'Ancien Testament. Il y a cette image du peuple d'Israël qui est la mariée, que Dieu au ciel, il va avoir ce repas et que ça va être la fête, etc. Et il était trop confiant. Dans l'exemple, dans la parabole que Jésus raconte, l'homme qui donne le repas, c'est Dieu. Les gens qui refusent, c'est les Juifs croyants. Les Juifs qui se pensaient bons parce qu'ils étaient Juifs, c'est ceux qui inventent des excuses pour pas venir. Et puis il y a les gens, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. C'était peut-être les Juifs qui étaient pas considérés. C'était le publicain qu'on a lu dans l'histoire qui se frappe la poitrine et qui dit à Dieu, je suis pas digne, etc. Des gens, c'était l'hydropique qui d'habitude n'avait même pas accès au lieu de culte. Il y avait certaines maladies où ils n'avaient même pas le droit de participer à la religion. Et donc c'est ces gens-là qui peut-être seront sauvés, notamment avec le ministère de Jésus, avec les apôtres. Et puis ensuite les gens le long des chemins, etc. C'est les païens, c'est les non-juifs. Et les juifs, c'était eux et personne d'autre. C'était eux qui allaient être au repas. Et personne d'autre. Et on en a parlé, cette idée des juifs qui ont laissé passer leur occasion entre guillemets, même s'il y a une annonce d'une restauration du peuple d'Israël. On a lu dans Romains et dans Hébreu. Je vous invite à réécouter ou à relire. Si vous voulez relire Romains et Hébreu, vous comprendrez cette idée-là. Donc l'Ancien Testament en parle, donc c'est une image, l'image qu'utilise Jésus, c'est quelque chose qu'il connaissait bien, et le Nouveau Testament en parle aussi, Jésus en parle. Si vous voulez vous tourner avec moi dans Apocalypse, on va lire un petit passage pour voir la fin de la Bible, donc c'est vraiment quelque chose qui est de partout. À partir du verset 1, « Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia !» Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. 19, hein, oui. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Et ils lui dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Une voix sortit du trône, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Heureux ceux qui sont à ce banquet, heureux ceux qui arrivent à cette fête. On voit les excuses des quelques personnes qui sont invitées, qui sont vraiment mauvaises, matérielles, des trucs qu'ils ont achetés, ils veulent aller vérifier. Qui c'est qui achète quelque chose sans l'avoir vérifié? Le fait d'être marié, une relation humaine, ce sont de bonnes choses, mais qui prennent le pas sur le meilleur. Et surtout, quand on voit ces excuses, c'est des choses qu'on dit parce qu'on n'a pas envie. Ils n'ont pas envie de venir. Et ils vont inventer des trucs. Ça vous arrive de ne pas avoir envie? Quelqu'un vous invite, puis vous dites « Oh, je crois que j'ai un truc ». Parce qu'on est trop honteux pour dire « Non, non, merci, j'ai pas envie de venir. » Socialement, c'est pas bien de le dire, quoi. Ça choque. Donc on ment. On remplace un truc mauvais par un autre. Si vous préparez plein de nourriture, vous invitez plein de monde et puis ils viennent pas, c'est quand même dommage pour la nourriture, quoi. Non ? À l'époque, c'était encore pire. Ils étaient allés dans le champ derrière, ils avaient tué le bœuf. Ils avaient passé, c'était des jours de travail pour préparer le festin, quoi. C'était pas, nous ça va, quoi. On descend à Lidl avant, Picard, hop, t'enlèves le papier alu, comme ça, t'as l'impression que on a l'impression que t'as travaillé toute la journée dessus et c'est bon. Ben là, ils avaient vraiment travaillé toute la journée, ils avaient vraiment tué les animaux, ils avaient préparé Et Dieu est en colère, il n'a pas envie de le gaspiller. Il veut inviter des gens, il veut qu'il y ait des gens ici. Quand on voit ce que ça a coûté à Jésus de sauver les gens, de nous sauver, on se dit c'est normal qu'il était en colère. Vous imaginez Dieu? Imaginez-vous quelqu'un vous demande quelque chose et ça vous coûte un être cher. Sincèrement. Et derrière, la personne vient vous dire et dit non, non, en fait, non, merci. C'est fou, quoi. Quand on le met dans ce contexte-là, le degré d'insulte envers Dieu. Dieu, il y a une colère de Dieu et il va y avoir un jugement final. Et c'est quelque chose qui fait partie du caractère de Dieu et qui est lié aussi à son amour. Mais il nous aime. Et ceux qu'il invite finalement, c'est ceux qui, c'est un peu comme ceux que Jésus était venu sauver. Il mangeait avec les pécheurs, avec les publicains. On connaît le verset 19-10 de Luc. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher ces malades, ces gens qui avaient besoin d'un médecin, ces gens que les pharisiens ne voulaient même pas considérer. Et finalement, c'est ces gens-là qui vont être à cette table, à cette fête avec Dieu. C'est une belle image. Pour un côté pratique, si les gens vous invitent à manger, que votre oui soit oui et votre non soit non. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller quand quelqu'un vous invite à manger. On n'est pas. Mais apprenons aussi à dire non quand on n'a pas envie ou quand on peut pas simplement et pas mentir et se faire d'excuses ou dire bon bah je vais venir ou pas répondre et puis finalement de pas donner. Par exemple avec le nouvel an, si vous inscrivez, que votre oui soit oui. Ne vous inscrivez pas. Avec l'idée de vous dire, si j'ai pas une meilleure fête qui se présente, j'aurai au moins ça comme, comme truc sur lequel me rabattre. Inscrivez-vous avec honnêteté. Le texte nous parle encore d'un festin, de mariage. Jésus était un festin. Jésus, on le voit souvent, qui mange avec ses disciples. Il y a ce festin, ces noces de l'agneau qui sont décrites dans l'Apocalypse, il y a une idée de joie incroyable. Il y a l'idée d'allégresse. C'est quelque chose c'est un mot qu'on ne comprend pas, je pense, de nos jours. Est-ce que vous savez ce que c'est l'allégresse? C'est un mot qu'on balance comme ça en tant que chrétien, mais finalement, c'est ce genre de joie, est-ce qu'on connaît vraiment? Et dans bien des commentaires, dans bien des gens qui enseignent, nous diront qu'un chrétien triste et déprimé, c'est une contradiction. On n'a pas le droit, on a aucune raison, on n'a aucun fondement pour être triste et déprimé tout le temps. On peut être triste et il peut y avoir certaines choses qui nous arrivent. On voit que même Jésus a pleuré, qu'il y avait certains moments. Mais notre vie, sur l'ensemble, doit être une vie de joie. Dieu nous a sauvés. Je voulais avoir une image un peu de ce que c'est ce festin. Parce qu'encore une fois, là, festin, bon. Une image qui m'a bien plu, c'est Astérix et Obélix. C'est une super image. C'est festin à la fin de chaque livre. Cette abondance, cette paix, parce qu'il n'y a plus d'oppresseurs, parce qu'il n'y a plus de problèmes, tout a été résolu. Ils sont tranquilles et ils font la fête. Bon, on a vu que dans l'Apocalypse, il y a quand même des gens qui chantent. Dans Astérix, c'est pas le cas, mais c'est parce qu'ils veulent pas avoir la pluie, hein. On est d'accord. Mais c'est cette image de plénitude et de satisfaction. Gardez ça en tête quand vous entendez l'idée des noces de l'agneau. C'est cette fête, cette joie, c'est d'être avec des gens. Jésus nous offre un festin perpétuel de paix, d'aide, d'amitié, de repos, de victoire sur nous-mêmes, de contrôle, de modération, de joie, de tranquillité, d'absence de mort spirituelle, d'espoir, de salut. Et on rejette, on laisse passer pour des choses matérielles et humaines. J'ai une citation qui, je trouve, parle exactement à ça, qui est l'auteur C.S. Lewis, qui a écrit notamment les Chroniques de Narnia, si vous connaissez les films, et qui était un théologien anglais, écrivain, prof, etc. Et il dit, si on considère les promesses de récompense que Dieu nous offre dans les évangiles, il semblerait que Dieu, quand il nous voit, il ne pense pas que nos désirs soient trop forts, il pense que nous avons des désirs trop faibles. On est des créatures qui avons un cœur partagé, où on passe du temps avec l'alcool, le sexe et l'ambition. On perd notre temps avec ces choses alors que la joie infinie nous est offerte. Et il finit avec cette image, il dit c'est un peu comme un enfant dans un taudis qui joue dans la boue et qui dit non merci quand on lui offre des vacances à la plage parce qu'il arrive même pas à s'en apercevoir. On se contente trop facilement des choses petites de la vie. Et Jésus ici, il raisonne avec ces gens, il les aime et il leur dit, mais est-ce que vous allez y être? Là, vous vous trompez. Vous n'allez pas y être, vous refusez. Ça lui a tant coûté d'organiser ce festin, sa vie, sa mort, et il veut que nous venions à lui. Il veut que nous ayons ça. La parole nous dit qu'il veut que nous ayons la vie éternelle, la plénitude de la vie qu'il veut pour nous. N'ayons pas d'excuses pour ne pas venir à Jésus. Prenons le temps dans la semaine de venir à lui, de prier, de lire sa parole, de communier ensemble, d'ensemble parler de sa bonté et de ce qu'il a fait pour nous. Il y a que comme ça qu'on pourra grandir et changer comme il le veut. Et venons à lui.